Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous, les pieds sur terre, quartier d'été, c'est maintenant avec la question « Les Français ont-ils des préjugés ?» C'est le dernier épisode de cette petite série avec l'histoire de Yacouba, une émission diffusée pour la première fois le 8 février 2011, à écouter ou à réécouter.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Les pieds sur terre, une émission proposée par Sonia Kronlund.
Papa, il a beaucoup d'amis. Et c'est quand même bizarre parce que dans ses amis qui n'ont pas été titularisés, c'est que des étrangers comme par hasard. Tous ses amis français. Et ben ils sont proviseurs ou proviseurs adjoints, titularisés. Voilà, donc j'en conclus que c'est quand même bizarre. Pas normal. Je sais pas, mais tous ces cas-là, ils sont étrangers. Ils sont pas tous incompétents quand même. Je me demande pourquoi les gens, ils aiment pas les gens d'origine étrangère. Ils sont comme eux. Peut-être pas de la même couleur, peut-être pas de la même langue, mais ils sont comme eux, c'est des êtres humains, c'est pas des animaux, ni voilà. Enfin, je me dis que les gens racistes, ils ont quand même peut-être des problèmes. Hein. C'est pas normal de pas aimer les gens étrangers. C'est bien que les gens comme ça, ils soient mélangés.
À l'instar de cette très jeune fille, on semble parfois oublier que ceux qui ont le plus de problèmes, ce ne sont pas les racistes, mais ceux qui en sont les victimes. On sonde, on analyse, on cherche à comprendre comment la France bascule dans le racisme décomplexé et on tend notre micro aux militants et aux sympathisants du Front National, par exemple, pour s'expliquer comment tout cela est possible. Pendant ce temps, ils sont des centaines à contacter chaque semaine le MRAP, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, pour dire leur histoire, pour témoigner de ce qu'ils vivent au quotidien justement, sans parler de ceux qui ne disent rien, mais ne s'habituent pas pour autant. Nous avons donc souhaité les écouter cette semaine. Yacouba Barry est le père de cette jeune fille qui pense que les racistes ont des problèmes. Conseiller principal d'éducation dans un collège, il y a 2 ans, il a passé le concours des chefs d'établissement qu'il a réussi à l'issue d'une année de stage, qu'il racontera sa titularisation en tant que proviseur adjoint, lui a été refusé. Redevenu CP, il attend que l'affaire soit jugée par le tribunal administratif de Pontoise. Entre le harcèlement moral et la discrimination liée à la couleur de la peau, la frontière pourra sembler mince, sauf qu'il y a des mots comme des coups nets et tranchants qui font basculer les brimades dont Yacouba a été victime du côté du racisme au quotidien. Sans grand doute, hélas, en tout cas jusqu'à 15h dans les pieds sur terre, quartier d'été, sur France Culture, évidemment.
Barry de mon nom, Yacouba de mon prénom. Je suis né officiellement en 1966 au Burkina Faso. Je suis né dans une case au fin fond de la brousse, sans état civil précis. J'étais censé, comme tous les enfants peuls de ma génération, grandir derrière les vaches. Quand je suis allé à l'école, il a bien fallu me déterminer un âge. Et j'exerce aujourd'hui actuellement les fonctions de conseiller principal d'éducation au lycée René Auffray à Clichy. J'entame ma deuxième rentrée scolaire dans cet établissement. Après avoir exercé les 2 années précédentes les fonctions de proviseur adjoint au lycée Jean Monnet à Franconville dans le Val d'Oise.
Pourquoi après avoir été proviseur adjoint, vous vous retrouvez conseiller principal d'éducation?
Oh, vous m'amenez à remuer le couteau dans la plaie. Encore que la plaie, elle est béante depuis cette date-là et elle saigne pour ainsi dire en permanence. En 2007, j'exerçais à cette époque-là dans l'Académie de Reims les fonctions de conseiller principal d'éducation. J'ai passé le concours de personnel de direction que j'ai été reçu, 34e sur quelques 700 lauréats au plan national. J'ai donc été affecté au lycée Jean Monnet de Franconville pour mes 2 années de stage sous la responsabilité d'une proviseure qui a estimé que je ne devais pas exercer ces fonctions-là. Dès les premiers jours, elle s'est étonnée que j'ai obtenu ce poste-là, puisqu'elle m'a posé la question, comment se fait-il que, je cite, tu aies eu ce poste? Bah, j'ai dit, c'est fait que j'ai reçu, j'ai été reçu à un concours et voilà. Oui, mais il y a d'autres qui méritaient d'y être. Je dis, ben, faut croire que notre hiérarchie respective en a jugé autrement, puisque c'est moi qui ai été affecté ici. En vérité, c'est parce qu'elle ne voulait pas de moi sur ce poste. Elle me l'a dit d'ailleurs. Et qu'elle ferait tout pour se débarrasser de moi. Elle l'a répété en présence de mon tuteur. Et effectivement, elle a tout fait, oui, pour se débarrasser de moi, puisque elle a usé de tous les moyens, y compris les plus inacceptables, jusqu'à l'insulte grossière. Con, andouille, loubard, petit nègre de banlieue. Il n'y a pas besoin de gens comme toi. Disons, l'éducation nationale française n'a pas besoin de gens comme toi parmi ses personnels de direction. Tu devrais faire comme tes semblables qui sont devant les grands magasins.
C'est-à-dire
Le groom, pardi. Sans doute pour elle, je ne méritais pas d'autres fonctions que celle-là. Durant les 2 années, c'était un enfer permanent. Toutes les réunions de direction auxquelles je participais, c'était des réunions hebdomadaires, donnaient lieu à des humiliations. Il suffisait que je prenne la parole pour qu'elle me rabroue comme un enfant. En présence des conseillers principaux d'éducation, en présence de l'agent comptable, en présence de la chef de travaux. Et d'ailleurs, ça jetait un malaise parce que les autres étaient... ça les mettait évidemment mal à l'aise. Lorsque j'intervenais, par exemple, elle levait les yeux au ciel de façon mais ostensible. J'ai des témoignages là que je peux vous montrer. Fort heureusement, j'ai eu autour de moi des gens extrêmement courageux et intègres, que ce soit les collègues, les différents personnels, les personnels administratifs, les personnels techniciens, ouvriers de service, les enseignants. Voilà, il y a quand même des personnels qui ont été suffisamment honnêtes et courageux pour écrire une lettre, la signer nommément. C'est rare. Et c'est courageux. Alors, attendez voir, il faut que je change de lunettes. Ah, tenez, par exemple. Lors du premier conseil d'administration, nous avons procédé à un tour de table afin que chacun puisse se présenter. Alors que M. Barry se présentait aux membres du conseil d'administration, Mme Hain, donc la proviseur, a soupiré, levé les yeux au ciel afin de marquer volontairement son désintérêt, même son dénigrement. M. Barry a poursuivi sa présentation sans sourciller. Lors du deuxième conseil de discipline de l'année, alors que chacun livrait son analyse des faits, M. Barry a pris la parole. Durant son explication, Mme X a de la même manière levé les yeux au ciel pour marquer son désintéressant et n'a cessé durant l'intervention de M. Barry de grimacer négativement ou de soupirer. Il suffisait que je prenne la parole pour qu'elle contredise systématiquement ce que je disais. Dès lors que je tenais des propos, il fallait qu'elle corrige. Elle allait jusqu'à rectifier des mots que j'employais, laissant entendre en creux que je ne maîtrisais pas le français. Quand on parlait, elle me disait, oui, il faudrait que tu apprennes le français. La première fois qu'elle m'a dit ça, j'ai ri et je lui ai dit, il me semblait jusque-là quand même maîtriser la langue française puisque je l'ai enseignée. On ne maîtrise jamais suffisamment quelques domaines que ce soit. Mais en général, je suis bon élève, donc donne-moi un lexique et je me mettrai en devoir de parfaire mon français. Elle ne m'a pas répondu sur le moment, mais ça a continué. Je me rappelle aussi d'une chose. Après le premier conseil d'administration, le lendemain, elle m'a prise à partie, me reprochant de n'être pas restée pour faire le ménage de la salle, quoi. De n'être pas restée pour nettoyer la salle. Je lui ai dit, mais ce n'était pas une responsabilité... absolue qui m'incombait, en tout cas, pas de rester absolument ce soir-là pour faire ce ménage. Ah si, c'est à toi de rester et de faire le ménage. Bon, j'ai compris plus tard, puisque c'est une constante Elle est allée jusqu'à demander aux agents de ne absolument pas tenir compte et exécuter les tâches que je leur confiais. Ben, voilà quoi. Elle est allée jusqu'à interdire à l'agent d'accueil de me transmettre les communications téléphoniques. Les agents en question étaient mal à l'aise et il y en a qui m'en ont parlé puisque les agents lui ont demandé à ce moment-là de leur faire un écrit. Elle a refusé de le faire, bien évidemment. Elle était assez futée, je veux dire. Parfois, quand on se retrouvait le soir entre nous, là, elle se laissait aller, quoi. Hein. Là, elle ne se gênait pas. Mais parfois, il y a des gens qui passaient dans les couloirs et qui entendaient. C'est comme ça que certaines personnes ont entendu des propos du type « petit noir de banlieue ». Ce n'est pas une seule fois. C'était assez coutumier. Un soir, donc, après donc, les cours, donc, j'ai quitté mon bureau. Je suis allé vers le sien pour lui faire le point de la journée. Et comme à son habitude, elle s'est mise à me parler avec véhémence. Oui, je lui dis, mais s'il te plaît, parle-moi correctement. Elle lève la tête. Elle me regarde comme ça. Je la revois comme si c'était ce matin, en train d'agiter ses épaules et sa tête, voyez-vous, comme ça. Parle-moi correctement, dis donc. Petit noir de banlieue. Je la regarde et je tourne les talons. Bon, cette scène-là m'a particulièrement marqué. Ce n'est pas la seule. Hein. Je ne suis pas naïf au point de nier que j'ai... Enfin, je ne sais pas, ben, j'ai un accent, c'est une évidence, non ? Donc, voilà. Et, comment dire, était-elle obligée d'imiter cet accent-là ? Pour atteindre quelqu'un, pour humilier quelqu'un, pour blesser quelqu'un, toutes les stratégies sont possibles. C'est l'année. Durant ces deux années, j'ai toujours observé un calme, une maîtrise dont je m'étonne encore d'avoir pu faire preuve. Tout cela, c'est pénible. Ça a été mais extrêmement douloureux, puisque pendant ces deux années, je suis passé de 70 kilos à 56. Aujourd'hui encore, je garde des stigmates. De cette expérience-là, par exemple, quand je suis contrarié, j'ai les tremblements qui me reprennent, je veux dire, qui datent de cette époque-là. Quand vous êtes agressé en permanence, mais en permanence, ça veut dire tous les jours que j'allais au bureau et qu'elle était là, c'était des humiliations permanentes. Eh bien, à force de me contenir, ben ce sont les nerfs qui prennent un coup. Mais je me rappelle de tenez, le 3 juillet 2009, on était à une période où, vous savez, à la fin de l'année, il y a les pots de fin d'année, enfin, vous voyez quoi, donc voilà. Donc
c'était la fin de votre stage.
Oui, j'avais déjà mon arrêté de non-titularisation depuis bien avant, depuis mi-juin, enfin fin juin à peu près. Mais ce jour-là, c'était un jour assez particulier, on va dire. Que je sois là aujourd'hui, ben, ma foi, à vous parler, c'est un miracle. Ce jour-là, j'ai eu un pied de l'autre côté, je crois. Parce que ce jour-là, j'ai arrêté de me projeter. Dans l'avenir. Voilà. Bah oui, ce jour-là, je... Vous savez, le ras de bol, l'excès, il arrive un moment où il y a un point de rupture. Ben, le point de rupture, on ne peut pas prévoir quand ni comment il peut. La rupture, voilà, on ne peut pas prévoir toujours. De ces situations-là, on en meurt aussi sûrement qu'on peut mourir d'une balle entre les deux yeux. C'est encore plus terrible parce que l'on meurt à petit feu. Et ceux qui sont autour de vous en souffrent aussi. Pendant ces deux années, j'ai eu une vie de famille complètement ravagée. Mais bon, le plus important, c'est que le pied qui était de l'autre côté est revenu. Hein? Et que je suis dans une dynamique d'action et de projection.
Marié depuis qu'on se connaît, il nous est arrivé plein de choses. Ça nous a d'autant plus soudés.
Ces personnes-là n'imaginent pas. Ils font du mal à une personne, mais ils en font énormément à toutes les personnes qui sont autour. Honnêtement, ils ont eu de la chance qu'un drame ne soit pas arrivé. De pousser les gens à bout, ça peut se terminer dans un bain de sang, tout simplement. Ils poussent les gens soit au suicide, soit... Vous savez, dans les faits divers, on voit des fois une personne qui a sorti une arme et qui a massacré deux ou trois personnes. À un moment donné, oui, j'ai eu peur de ça, qu'ils fassent une bêtise. Il y a eu certains soirs où je rentrais du travail plus tôt à cause de ça. Il y a eu un soir en particulier où son frère l'avait eu au téléphone et il avait eu peur. Son frère est au Burkina Faso. Hein. Il m'a appelé en me disant « il y a quelque chose ce soir ». C'était une réunion où c'était un pot de départ de collègues. Où il veut y aller, mais j'ai peur qu'il projette une bêtise. De quel ordre, il ne savait pas. Et il m'a dit, il faut l'empêcher d'y aller. Il faudrait que tu rentres avant qu'il n'y aille. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai parlé très durement pour lui faire un électrochoc. J'ai rappelé que non, il ne pouvait pas se permettre de faire une bêtise. Il avait des enfants, qu'il avait... Voilà. Je pense qu'il a honte parce que c'est quelqu'un de très fier et qu'il a tout subi pendant 2 ans sans rien dire. Je pense que sa honte vient de là. Moi, la seule honte que j'ai ressentie, c'est la honte de mon honte d'être française à certains moments, honte de mon pays, qui se dit pays des droits de l'homme, mais moi, je ne sais pas où il est, le pays des droits de l'homme. La seule fleur qu'on nous a faite une année, c'était dans les Ardennes, une fois où mon mari aurait pu se retrouver sans papier. Et à l'époque, il avait une carte de séjour à l'année. Et il travaillait. Mais pour travailler, il lui fallait sa carte de séjour. Et pour avoir cette carte de séjour, il lui fallait son permis de travail. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, pour avoir un, il faut l'autre, et pour avoir l'autre, il faut l'un. Alors, comme on habitait dans le quartier de la préfecture et dans le quartier où l'inspection du travail était aussi, les gens nous connaissaient, en fait. Il n'y avait à peu près qu'un noir dans le quartier, donc... Voilà, c'est une petite ville de province. Et l'inspecteur du travail lui a fait son permis de travail provisoire en attendant qu'il ait sa carte de séjour. Voilà, c'est la seule fois qu'on lui a fait une fleur. Honnêtement, être un couple mixte dans ce pays, c'est pas aisé. Bon, d'un point de vue familial... Le problème, c'est surtout avec mon père. Bon, je ne sais pas pourquoi il fait un blocage avec mon mari. Ma mère, non, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas expliquer pourquoi il fait un blocage, par contre. Je me refuse à croire que c'est du racisme. J'évite de me poser la question. Parce que... c'est douloureux. Bon.
Bonjour. J'ai appelé Audrey.
Oui.
Et là, je sais pas si elle peut, parce qu'à peine sa mère elle est arrivée, elle m'a dit « je te laisse », elle a raccroché. C'est bizarre, à peine sa mère elle est rentrée du travail, elle a raccroché direct.
C'est déjà arrivé qu'il y ait des parents d'amis de vos enfants qui refusent qui fréquentent vos enfants parce que votre mari était noir?
Oui, les parents de...
Non, pas Chloé.
Si, Chloé.
Ses parents, ils étaient pas racistes, hein.
Au début, on s'est posé la question quand même. Elle a, l'année dernière, une de ses copines qui lui avait rapporté des propos de ses parents qui nous avaient un petit peu heurtés. La phrase était du style « on ne sait pas comment ils vivent » ou « comment vivent ces gens-là ». C'est-à-dire, c'est parce que mon mari est noir, mais on vit normalement. On est quand même... La gamine est quand même venue à l'anniversaire de Mariam et le papa est venu la chercher là à la maison. Et bon, je pense qu'ils ont compris qu'on vivait normalement. je sais pas s'ils s'imaginaient qu'on vivait dans une case, comme dit mon mari, avec un os en travers du nez, mais bon. On s'est posé la question, honnêtement. Parce que, bon...
Je me demande pourquoi les gens, ils aiment pas les gens d'origine étrangère. Ils sont comme eux. Peut-être pas de la même couleur, peut-être pas de la même langue, mais... Ils sont comme eux, c'est des êtres humains. C'est pas des animaux, ni... Voilà. Enfin, je me dis que les gens racistes, ils ont quand même peut-être des problèmes, hein. C'est pas normal de pas aimer les gens étrangers. C'est bien que les gens comme ça ils soient mélangés. Moi, je trouve que c'est mieux parce que comme ça j'ai deux cultures. Déjà, je connais les plats de là-bas, les vêtements. Ici aussi, après, je trouve que c'est bien d'être mélangé. Après, peut-être que ça se voit pas sur ma couleur, mais...
Et de quelle couleur ?
Je suis blanche.
Presque. Plus blanche que...
Que le noir. On dit qu'il y a eu plus de lait que de café. Voilà, donc tout le monde me dit que je ressemble à une maghrébine. Après, moi, ça me gêne pas. Hein. Au collège, et même mes copines et tout ça, c'est très mélangé. Donc c'est Afrique noire, Maghreb, France... On traîne tous ensemble, aucun de nous n'est raciste. Si je découvrais qu'une de mes copines était raciste, ben là, ce serait plus ma copine. Je reste pas avec les racistes ou les homophobes, par exemple, ou les gens comme ça, j'aime pas. Il n'y a pas de raison de pas aimer les homos ou de pas aimer les gens d'origine étrangère, ou voilà. Ils sont bêtes. Après, si vraiment ils sont très gentils avec moi, ben c'est bon. Mais je veux dire, on sera pas les meilleurs amis du monde, quoi.
Vous n'employez jamais le mot de racisme.
Parce que c'est un mot qui a été tellement assaisonné à toutes les sauces.
Mais est-ce que pour vous, là, vous êtes victime de racisme ?
De la part de l'institution, non. En revanche, le comportement de cet chef d'établissement à mon égard est entaché de racisme. Est-ce un racisme qui procède d'une conviction ? Est-ce le désir de blesser, de me rabaisser, de me démolir psychologiquement? Je ne saurais le dire. Quand on fait les frais d'attitude ou de propos racistes, on a comme une crainte, vous voyez, de se positionner en victime, d'utiliser ça comme prétexte on n'est pas forcément à l'aise. En tout cas, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne voudrais pas apparaître comme celui-là qui... oui, bon, ben voilà, ça fait tellement argument facile. Et on a vite fait de vous renvoyer ça à la figure. Ben oui, ben voilà, oui, voilà. En tout cas, je ne voudrais pas donner prise à une critique de ce type. Dire, bon, ben voilà, M. Barry, au fond, est un incompétent et qui, pour masquer son incompétence, invoque cet argument-là, du racisme, quoi. Aujourd'hui, je suis en attente ou de l'examen par ma hiérarchie ou du jugement du tribunal. Je suis dans une attente confiante parce que je ne peux pas imaginer un seul instant que l'administration de l'éducation nationale ne rétablisse pas la situation et ne me réhabilite pas. Je n'arrive pas à me projeter au-delà du dénouement de cette affaire. J'ai besoin que cela soit reconnu, ça pense la plaie quand même. Pour le coup, ma plaie, elle est profonde, béante et saignante.
Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre, quartier d'été. Les Français ont-ils des préjugés? Nous racontions l'histoire de Yacouba, un reportage signé Pauline Mocor, réalisé par Julie Béressi, avec un coup de main d'Alexandra Malka. Au mixage, il y avait Serge Ristich, l'attaché de production. C'est évidemment Sandrine Chaperon. Merci à Yacouba, à Rachel, à Isaac, à Mariam Barry, à Bernard Schmitt, à Chantal Chevillard et aux bénévoles du MRAB, aux commentaires, vos réactions, vos suggestions, ce que vous voulez nous dire, ce que vous voulez savoir. Des nouvelles de Yacouba, on vous en donne également sur le site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. N'hésitez pas à nous poster, à nous envoyer des histoires si vous avez envie de nous en raconter, des choses qui vous sont arrivées, étonnantes, surprenantes ou tristement ou gaiement d'ailleurs, banales, des histoires du quotidien. On les attend, on les lira et on vous recontactera éventuellement pour les enregistrer si elles ont retenu notre attention. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi sur France Culture, évidemment.